Vous aimez la littérature?
J'aurais essayé de faire de la littérature. Vous pourrez peut-être m'aider à trouver une solution.
Ouais, c'est de cramberger un peu pour une fois.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
Mon livre parle de masque comme métaphore. Une métaphore n'a pas un...
Quel essai?
Oui, alors aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous parler d'un texte de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un utopiste anglais du 19e siècle, qui s'appelle William Morris, qui est surtout connu pour avoir écrit un ouvrage qui s'appelle « Les Nouvelles de nulle part » et où il explique que la révolution s'est faite et que donc on vit dans une société complètement paradisiaque où l'argent n'a plus cours, où les gens fabriquent et travaillent et produisent en fonction de leurs capacités et consomment en fonction de leurs besoins. Vous connaissez une formule que Marx, à peu près à la même époque, a rendue célèbre. Là, j'ai choisi, je vous rappelle que William Morris, c'est quelqu'un qui est assez, je dirais, prolixe dans ses activités. Il est peintre, il est poète, il est tisserand, il est traducteur, il est décorateur, il est romancier, il est éditeur, il a besoin de se faire imprimer et s'il a des difficultés, il devient imprimeur, etc. Et il va être mécène, c'est lui qui va financer, par exemple, qui va aider financièrement le mouvement pré-raphaélite qu'on retrouvera plus tard avec le moderne style ou l'art nouveau. Donc c'est un personnage assez, assez extraordinaire. Et alors, il a une vocation à faire des conférences pour expliquer en quoi, quelle vision il a de la société. Et il a des auditoires pour ses conférences d'artistes ou d'ouvriers. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler plus particulièrement d'une de ses conférences, dont le titre est tout à fait évocateur, puisqu'il dit « Comment nous vivons ?» Comment nous pourrions vivre ? Alors, je vais vous lire un petit extrait parce que vous allez comprendre un petit peu l'état d'esprit de ce William Morris dont je vous conseille encore une fois la lecture à travers les Nouvelles de nulle part. Il dit « Pour la plupart des gens, le mot de « révolution » que nous autres socialistes, alors c'est socialiste mais au sens 19e, hein, c'est pas au sens éventuellement 20e ou 21e, donc que nous autres socialistes sommes si souvent obligés d'employer, évoque d'affreuses images. Mais nous ne voulons pas nécessairement dire par ce mot un changement qui s'accompagne d'émeutes et de violences de toutes sortes, et encore moins un changement prémédité qui s'accomplirait sans l'assentiment de l'opinion publique et serait le fait d'un groupe d'hommes ayant réussi, d'une manière ou d'une autre, à s'emparer provisoirement du pouvoir exécutif. Nous employons plutôt ce terme de « révolution » dans son sens étymologique de changement, touchant les fondements de la société. Les gens ont peur à l'idée d'un changement aussi profond et nous supplient d'employer plutôt le mot de « réforme ». Pour nous autres socialistes, cependant, réforme n'est pas du tout le même sens que celui de révolution. Il ne me paraît donc pas de convenir, quels que soient les projets qui se dissimulent derrière cette inoffensive façade. Gardons-nous bien d'utiliser tout autre mot, puisque le nôtre désigne un changement qui touche les fondements de la société. Il peut faire peur aux gens, mais au moins il les avertit qu'un danger réel existe et que cela ne le conjurera pas de ne pas y prêter attention. Nous inspirerons peut-être du courage à quelques-uns qui connaîtront ainsi l'expérience, l'espérance et non la peur. L'espérance et la peur, ces deux grandes passions dominent toute l'espèce humaine et tout révolutionnaire a forcément affaire à elles. Notre travail, c'est de donner espoir aux opprimés qui sont une multitude et de faire trembler les oppresseurs qui sont une minorité. Si nous y parvenions, si les foules se mettaient à espérer, cet espoir suffirait à faire trembler ces quelques hommes. Mais nous ne tenons guère à les terroriser. Nous ne voulons pas venger les pauvres, nous voulons leur bonheur. D'ailleurs, comment se venger de façon adéquate de tous ces millénaires de souffrance? Cependant, nombre de ceux qui oppriment les pauvres, et même la plupart d'entre eux, ne se savent même pas oppresseurs. Ils vivent leur vie discrète et rangée et croient sincèrement n'avoir rien en commun avec ces Romains qui possédaient des esclaves. Ils savent que les pauvres existent, mais leur souffrance ne se montre pas à eux de façon violente ou spectaculaire. Ils affrontent eux-mêmes leur lot de soucis et s'imaginent sans doute que tous les hommes font de même. Aucun moyen ne s'offre à eux qui leur permette de comparer leurs soucis avec ceux qui se trouvent à un rang inférieur dans l'échelle sociale. Et si jamais l'idée que ces soucis pouvaient être pires leur vient, ils se consolent en se disant que l'on s'habitue à tout, si lourde que soit notre peine.
Le premier essai.
Vous aimez la littérature?
J'aurais essayé de faire de la littérature. Vous pourrez peut-être m'aider à trouver une solution.
Ouais, essayez de cramberger un peu pour une fois.
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature.